Écho d'économie.
L'Agence nationale de services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER, vise 50% d'accès à l'électricité d'ici 2030. Un plan stratégique à 39 milliards soutenu par plus de 180 millions de dollars déjà mobilisés pour électrifier 7 millions de ménages. L'invité de l'économie, c'est Benoît Boissembe Kikukama, ancien directeur de la CADECO Kindu. Il revient sur ce qu'il considère comme la meilleure situation de cette caisse publique. 50% de la population congolaise pourrait avoir accès à l'électricité d'ici 2030, contre moins de 20% aujourd'hui. Un objectif ambitieux annoncé ce mercredi par l'Agence nationale de services énergétiques en milieu rural et périurbain ANSER lors de la célébration de ses 5 ans d'existence. Jocelyne Moussaou nous en dit plus.
Ce cap fixé par ANSER dans son plan stratégique 2025-2030 nécessite plus de 7000 MW à installer et un investissement estimé à 39 milliards de dollars qui permettra d'électrifier 7 millions de ménages et en soutenir également les usagers productifs de l'énergie, selon le directeur général de ANSER, Cyprien Moussimar Ndele.
Ces 5 années ont vu émerger un véritable élan du secteur privé pour les énergies renouvelables. Le défi du prochain quinquennat sera de transformer cet élan en impact durable. Cela exige des synergies accrues, un pilotage rigoureux, une meilleure coordination entre acteurs publics et privés, un engagement renouvelé de tous.
L'agence reconnaît que l'objectif fixé pour 2025, soit 30% d'accès à l'électricité, n'a pas été totalement atteint, mais elle s'appuie sur des financements déjà mobilisés pour accélérer. Parmi eux, 150 millions d'euros via la Commerzbank pour des centrales solaires et hydroélectriques, 182 millions de dollars investis par la société Angélique et 63 millions de dollars de la Banque mondiale en faveur du fonds Mwinda pour soutenir le pouvoir d'achat de la population vivant en zone rurale et périurbaine via le mécanisme des subventions basées sur les résultats.
En Ituri, l'économie locale est affectée par l'insécurité persistante dans les localités de Lopa, Nizi, Iga Barrière et Centrale Soliniama dans les territoires de Djougou et une partie d'Irumu. Toutes les activités économiques sont paralysées depuis environ 2 semaines. Les opérateurs économiques déplorent des pillages, la fermeture de commerces et des centaines de camions bloqués sur la route nationale numéro 27. Isaac Remo.
Les attaques du groupe armé Zaïre contre les positions des FARDC qui s'observent depuis dimanche vers Soliniama, Iga Barrière, Lopa et Jina ont de graves conséquences sur l'économie locale et provinciale. Des centaines de camions transportant des marchandises et produits pétroliers sont souvent bloqués à cause des opérations militaires et menacent des hommes armés, ce qui augmente les charges des transporteurs dont les véhicules traînent sur la route avec tous les risques de pillage. Les maisons de commerce sont également fermées depuis lundi dernier, notamment au centre commercial d'Iga Barrière qui ravitaille plusieurs localités minières en marchandises, ce qui constitue un manque à gagner important pour les opérateurs économiques, déclare l'un d'eux. Les services de l'État qui perçoivent des taxes, et notamment la Direction générale des recettes de la province de l'Ituri, sont fermés. La Fédération locale des entreprises du Congo, FEC Djougou, demande au gouvernement de mettre fin au cycle des violences dans la région et assurer la libre circulation des personnes et de leurs biens. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
La première édition de Jobs Day se tient du mardi 22 au vendredi 25 juillet au Palais du Peuple à Kinshasa sous les auspices de l'Office national de l'emploi. Objectif poursuivi, faciliter le recrutement en rapprochant les demandeurs d'emploi avec les employeurs. Le chef service de base de données et numérisation de l'Office national de l'emploi ONEM, Kankienza Dove Jean-Chou, en parle au micro de Grâce Vuezolo Lenvo.
Job Day, qui est un processus simplifié du recrutement. Nous avons choisi un cadre pour ces Job Days, c'est le Palais du Peuple. C'est une opportunité de rapprocher les demandeurs d'emploi avec les employeurs, mais ce, d'une manière assez expresse. L'Office national de l'emploi a eu à collecter les offres de plusieurs entreprises avec leurs services de prospection, en collaboration avec les partenaires que nous appelons les entreprises privées. Et c'est sur base de ces offres-là qu'aujourd'hui, nous allons procéder au Job Desk. Donc les demandeurs vont candidater pour chaque postes. Et au-delà de ces activités principales, nous avons les activités de coaching mental, d'orientation professionnelle et enfin un enregistrement sur notre plateforme numérique. Toutes ces activités pendant les 4 jours nous permet et permet aux demandeurs d'emploi de maximiser leur employabilité afin d'obtenir un recrutement aussitôt. Voilà en quelques mots comment se présente l'organisation des 4 jours des Job Days de la première édition de Kinshasa au Palais du Peuple. Ça finit le vendredi, donc nous avons commencé mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Ça serait le dernier jour, le vendredi. Et il y a aussi, pendant 3 jours, des panels qui sont animés par les autorités du pays dans différents domaines et les experts de l'emploi pour rencontrer les problèmes que disent les demandeurs d'emploi liés à leur insertion professionnelle. Des pistes de solutions se donnent et le dernier jour, le vendredi, il y aura une table ronde de haut niveau avec plusieurs décideurs, tant politiques, privés que publics, qui vont essayer de répondre à la question de l'emploi à Kinshasa en particulier et en RDC en général pour donner des recommandations fermes quant à ce.
La 4e édition de la Conférence nationale de la microfinance s'éteignit la semaine dernière à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Cette rencontre s'est achevée le week-end sous les thèmes « La digitalisation des produits et services financiers, facteur clé de la résilience du secteur congolais de la microfinance ». Organisée conjointement par l'Association nationale des institutions de microfinance et l'Association professionnelle de coopératives d'épargne et de crédit APROSEC, cette édition a mis en lumière la digitalisation et l'inclusion financière comme levier essentiel. Ronelly Tibonera pour plus de détails.
Les choix de Lubumbashi n'étaient pas un hasard. Selon la présidente de l'Association nationale des institutions de microfinance, la ville se distingue par son dynamisme économique, une forte présence des institutions de microfinance et des COPEC, ainsi que par l'engagement des autorités provinciales dans la lutte contre la pauvreté et le développement local. Au cœur des échanges, la digitalisation des services financiers a été présentée comme un moyen majeur de renforcer la résilience du secteur, surtout dans les régions isolées ou touchées par les conflits. L'objectif clair est d'encourager les institutions à accélérer leur transition numérique, tout en assurant une meilleure gestion des risques, une gouvernance solide, l'interopérabilité des systèmes et la protection des consommateurs. Des institutions bancaires venues de Goma, Bukavu, Kinshasa et d'autres villes du pays ont activement participé à cette conférence, témoignant de l'intérêt national pour l'avenir numérique de la microfinance en RDC. John Maloba, le ministre provincial des Finances du Haut-Katanga, a chaleureusement salué la tenue de la conférence à Lubumbashi. Il a rappelé le rôle essentiel de la microfinance pour la croissance économique, l'inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté. Le ministre a également réaffirmé l'engagement du gouvernement provincial à soutenir ce secteur vital. Pour finir, il a lancé un message clair. Lubumbashi doit être réintégré dans le projet Transform, tout comme elle l'était dans l'ancien programme PADEP, projet d'appui au développement de l'entrepreneuriat privé en République démocratique du Congo.
Écho d'économie. Et pour finir, Écho d'économie reçoit Benoît Boissembe Kukukama, directeur retraité de la Cadeco Kindu. Ces derniers nous parlent de ce qu'ils qualifient de la meilleure situation de cette caisse de l'État dans cet entretien accordé à Florence Kizalunga.
Monsieur Benoît Boissembe Kukukama, bonjour.
Bonjour maman Florence.
Comme ancien directeur de la Cadeco, aujourd'hui retraité, dites-nous comment avez-vous trouvé la Cadeco Kindu et comment est-ce que vous la laissez son état actuel?
Merci madame pour votre question. En tout cas, si je dois parler de la Cadeco à mon arrivée à Kindu, je suis arrivé à Kindu en novembre 2022. En tout cas, j'ai pleuré quand je me suis pointé à la porte de la Cadeco Kindu. J'ai trouvé la Cadeco Kindu. Elle était abandonnée, beaucoup de poussière, il n'y avait pas d'activité et en tout cas, il n'y avait rien. Alors, je me suis dit, mais comment on m'a envoyé dans un siège à problème comme ça? Je me suis dit, bon, je ne peux pas croiser les bras, je dois me mettre au travail. C'est comme ça que je me suis mis sur le chantier. D'abord, il y avait les problèmes de spoliation de la parcelle. J'ai lutté pour que je puisse récupérer la partie de la parcelle. Il y a eu démolition. On a même délocalisé la route qui était dans la parcelle. C'était le premier point qu'on a marqué à Kindu. Et après, nous nous sommes lancés sur le terrain. On a segmenté le terrain de Kindu en fonction des gens qu'on a trouvés ici. Alors, on contactait chaque segment pour parler de la Cadeco. Au début, c'était difficile. difficile. Les gens en doutaient. On disait, mais Kadeko a fermé depuis longtemps. Je dis, non, Kadeko est toujours là, mais il y avait ralenti des activités. C'est comme ça que nous avons commencé à contacter les couches de la population. Et progressivement, j'ai commencé à constater les ouvertures des comptes au guichet de la Kadeko. Et en dehors de ça, nous avons réhabilité l'immeuble. On a même mis les guichets. Même la Banque Centrale, quand la Banque Centrale est passée, la Banque Centrale a donné les félicitations pour dire vraiment, la maison a maintenant la forme de la banque, parce qu'il y a même un guichet qui est là, vitré, ainsi de suite. Alors, nous avons même contacté les régies financières. Kadeko qui ne percevait pas les taxes de l'État, grâce au logiciel édité par la direction générale qui nous a formés dans ce sens-là. On a lancé la perception des taxes de l'État. D'abord, on a commencé timidement avec une personne, deux personnes, mais maintenant on est plus de 600, 800 000 personnes qui viennent payer les taxes de l'État à la Kadeko. Et avec ça, nous percevons les taxes et ça nous permet aussi de contribuer aux recettes de l'État en versant la TVA dans les comptes du Trésor public.
Alors, ça produit quel effet, ça a eu quel impact sur la vie de la communauté du Maniema?
D'abord, pour les mamans qui vendent au marché, leur cuisine a eu l'argent. Ils ont eu l'argent et avec ce crédit-là, ça a augmenté leur activité. Une femme qui a acheté un sac de riz, avec ça, elle a augmenté la quantité de marchandises qu'elle doit vendre. Pour les salariés, au lieu de payer un taux usuraire de 50%, avec notre crédit d'avance sur salaire, ça a diminué ces coûts-là de crédit.
Alors aujourd'hui, vous quittez, vous êtes retraité. Je pense que c'est peut-être haute que vous quittez la Kadeko Maniema.
En tout cas, maman, je suis content parce que l'audit était très sévère, très dur. On a audité tout de la Kadeko et je suis content quand les auditeurs ont comparé la trésorerie par rapport à l'endettement. On a constaté que tout s'est égalé. Il n'y a pas de dette. Je n'ai pas laissé de dette à la Kadeko Kindu, de sorte que tous les clients peuvent passer au même moment pour retirer leur dépôt. Ils peuvent le faire. Il n'y a pas de crainte. C'est pourquoi j'en profite pour rassurer la population de Kindu. Bien que je suis parti, j'ai seulement la retraite. C'est lui qui reste, qui me remplace, qu'il fasse confiance à celui-là parce que je suis parti, mais je ne suis pas parti parce que je vais continuer à prodiguer des conseils à ces messieurs-là. Qu'il fasse confiance à la Kadeko Maniema.
En vous entendant parler tout au début, c'est comme si la Kadeko n'existait pas. Mais avec votre arrivée, la Kadeko a existé. On parle aujourd'hui de la Kadeko. Pour garder ses caps, qu'est-ce que votre successeur va faire?
Le successeur doit emboîter nos pas. Et là où il trouve des barrières, des problèmes, il peut nous contacter. Nos téléphones restent ouverts. Chaque fois qu'il aura de problèmes, il peut nous contacter. Et on peut faire le consulting dans ce sens-là. Et j'interviens pour l'aider.
Alors, quelle est cette politique que tu as utilisée pour séduire la population des Kindu pour avoir confiance à cette banque de l'État congolais?
D'abord, de par ma formation, j'ai étudié le marketing. J'ai étudié le marketing général. J'ai étudié le marketing bancaire. Et j'ai étudié aussi l'audit. Tout ça, j'ai mis en marche pour faire confiance à la population de Maniema. Et cette technique-là, de marketing, d'audit, m'a aidé à séduire, comme vous l'avez dit, là, la population de Maniema. Et vraiment, et la population est très contente. Partout, on parle de la Kadeko. On dit que la Kadeko a ressuscité à Maniema parce que avant moi, vraiment, on parlait de Kadeko du nom.
Fin de cette émission, Billy Landré Betou et Pierre Diassino ont été à la technique, Blaise Ndongala l'a réalisé à la coordination, Jocelyne Moussa Mpondé. Merci de nous avoir suivis.